Alleluia, 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 alleluia. Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez retrouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Bien, chers amis et frères en Jésus, il est très répandu aujourd'hui de penser, de dire « Je suis chrétien parce que je suis né dans un pays à majorité chrétienne. Mais si j'étais né en Chine, au Japon, en Inde, voilà, je serais autre chose. » Et le message de l'Évangile, et c'est la question que nous pose cette fête de l'Épiphanie, est-il vraiment pour tous ? Est-il vraiment catholique, c'est-à-dire pour tous? Cela est battu en brèche, et c'est d'ailleurs un obstacle à la mission de l'Église, à l'élan de la mission, ou même à l'évangélisation dont on parle tellement aujourd'hui. Mais les mages viennent nous donner cette réponse. Qui sont ces mages? Il y a plusieurs sens du mot qu'on trouve dans la Bible. Ce n'est pas les magiciens, Ils sont honnis dans la Bible, appelés de séducteurs, escrocs. Et le livre du Deutéronome au chapitre 18 que vous pourrez aller consulter ici est bien clair. Ce n'est pas non plus les gens qui utilisent leur pouvoir comme ce bar Jésus des Actes des Apôtres qui fait des miracles. Mais ces magiciens, ils opposent, ils mettent en compétition leur pouvoir à la forme du salut de Jésus. Ils cherchent à amadouer le réel, ils cherchent à deviner l'avenir pour eux, mais du coup se rangent du côté des démons, insiste la Bible. Mais une autre acception du mot, et c'est celle que nous trouvons ici, ces mages qui viennent d'Orient sont des sages. Ils cherchent dans la création des signes de la présence de Dieu, de l'intelligence qui dirige le monde. Et ce sont en même temps des astronomes. Hein, là, ils viennent d'Orient et à Babylone, c'était un peu en déclin à l'époque de Jésus, mais c'était un grand centre justement d'études de la NASA de l'époque, si vous voulez, de l'étude du ciel et de l'intelligence du monde. Ils ont vu un signe dans le ciel. Et effectivement, on rapporte, pour cette histoire d'étoiles, on rapporte qu'il y a eu effectivement moins 7, moins 6 avant Jésus, la conjonction de deux planètes, Jupiter et Saturne, dans le signe zodiacal des poissons. Et en 1609, Kepler a observé le même phénomène, doublé d'ailleurs par l'apparition d'une supernova qui éclairait extraordinairement. Ils ont été sensibles à ce signe et ils se sont mis en route. Car la sagesse religieuse et la philosophique, la recherche de la vérité, est clairement une force qui met tout homme en chemin. C'est d'ailleurs la sagesse qui conduit au Christ. Mais cette importance d'un roi de Juda, parce qu'il y avait une interprétation, Jupiter c'était la Grèce qui dominait le monde, enfin avec Rome, et qui dominait le monde à l'époque, et puis Saturne, ça représentait Juda, et donc l'apparition dans la conjonction des deux, c'était le signe, mais ça ne suffisait pas. Car tous les scientifiques ne se sont pas mis en route. Il fallait aussi ce désir d'une recherche intérieure, de découvrir, comme d'ailleurs aux païens l'annonçait déjà Balaam, bien des années, bien des siècles avant, en parlant de cette étoile, j'ai vu une étoile qui monte et qui apporte le salut. Et il est intéressant de noter que ces mages, eh bien, ils vont arriver ici à Jérusalem. Et arrivant à Jérusalem, ils ont besoin de se mettre à l'école de l'écriture. Et c'est dans l'écriture qu'ils vont trouver le lieu exact de Jésus, qu'ils vont pouvoir arriver à lui et qu'ils vont pouvoir adorer et devenir, si on pouvait le dire, comme les premiers disciples païens de Jésus. Alors ces mages, on en a fait des rois, nous on les appelle les rois mages dans nos crèches, et c'est à cause de cette lecture amoureuse de la Bible, hein, et du psaume qu'on a lu aujourd'hui, les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, et tous les rois se prosterneront devant lui, et donc on a associé, vous voyez la crèche, elle est toujours construite à partir des associations de la lecture biblique, et notamment dans la liturgie, De la même manière que le bœuf et l'âne sont aussi par une association biblique avec le début du livre d'Isaïe, hein, le deuxième ou troisième verset, quand on dit le bœuf et l'âne connaissent leur crèche, alors qu'Israël ne connaît pas son Dieu. Et donc c'est comme ça que sont arrivés dans la crèche le bœuf et l'âne, et ici que les mages sont devenus des rois, et qu'ils sont trois, Alors s'ils sont trois, ça dépend des traditions. Il y a d'autres traditions où ils sont 40. Hein, mais majoritairement, on a pris ce nombre de trois, qui n'est pas dans la Bible, mais qui est hautement symbolique, puisqu'il représente les trois continents. Hein, et d'ailleurs, on les a fait, on en a fait un noir, un blanc, et puis un asiatique, hein, pour représenter les trois continents. Tous les rois se prosterneront. Et on a ici, dans les textes d'Isaïe, ici, et de maintes manières dans les textes des prophètes, cette intuition que tous les peuples vont monter à Jérusalem, quelquefois pour y faire la guerre, mais quand ils arrivent, finalement, ils se mettent à adorer le Seigneur. Et cette histoire des mages nous montre cette importance de la révélation de Jésus, qui est unique. En chantant le refrain du psaume tout à l'heure, il y avait cette allusion aussi à Abraham. Hein, les promesses faites au peuple sont réalisées maintenant. En toi seront bénies toutes les nations de la terre, tous les peuples. Et c'est vraiment cette ouverture à tous les peuples de l'Évangile qui convient au cœur de tout homme, qui n'est pas une question de culture, qui d'ailleurs peut s'inscrire dans toutes les cultures. Et on a vu notamment par exemple un père de l'Église à Frat, qui n'est pas du tout dans l'ambiance gréco-romaine, développé, alors qu'il était en Perse, développé tout un christianisme qui se développe aussi d'une autre manière, dans une autre culture, mais c'est essentiellement ce message de Jésus, c'est essentiellement ce message de salut qui nous est donné, c'est essentiellement cette vie de la grâce qui nous est donnée. Ou, comme le dit ici saint Paul d'une manière très forte, c'est le mystère de Dieu, c'est le désir de Dieu, ce qui était caché dès l'origine dans le cœur de Dieu, ce projet de partager son amour, de partager sa gloire et sa grâce aux hommes, et bien de la mettre en œuvre, et de ne pas se laisser vaincre par les obstacles, ne pas se laisser vaincre par le péché, mais d'apporter vraiment le salut aux hommes. Et c'est intéressant d'entendre aussi dans ce livre d'Isaïe, alors que les exilés qui ont passé 50, 60 ans à Babylone, quand ils reviennent de Babylone et qu'ils arrivent en Juda, enfin à Jérusalem, et qu'ils sont terriblement déçus parce qu'ils pensaient se réinstaller, recommencer, rebâtir le temple comme avant, mais leur pays est finalement occupé par une vie qui s'est développée, imaginez, pendant 60 ans. On y parle une autre langue, on y vit avec d'autres coutumes. Eh bien, ils peuvent dire, regarde, l'obscurité recouvre la terre. Mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi et les nations vont marcher. Et les mages, ils représentent ce désir des hommes de rencontrer le Seigneur, ce désir de regarder la création et aussi de découvrir dans le cosmos que tout entier, il est fait pour le Seigneur. Et avec cette ouverture, comme je disais, ce complément, cette clé que donne l'Écriture, eh bien, ils peuvent arriver et ouvrir leur cœur à Jésus. Et c'est ainsi que ce qui nous est demandé, c'est de croire, en cette année de la foi, bien sûr, et toujours, mais de croire en cette universalité, dans cette capacité de notre monde, dans cette capacité des hommes, s'ils recherchent la sagesse, s'ils recherchent la vérité, eh bien, de découvrir le Seigneur. Demandons au Seigneur, avec les mages, nous qui sommes, par une très grande majorité, d'origine païenne, rendons grâce et demandons d'avoir accueilli Jésus, car c'est toujours un miracle. Ce n'est pas simplement un fait de culture, mais d'accueillir Jésus, de le reconnaître comme Seigneur, de mettre nos pas dans ses pas, de recevoir sa grâce, de vivre, d'apprendre chaque jour humblement à vivre de son amour et à se laisser transformer jour après jour, même si c'est dans un combat spirituel bien souvent, mais rendons grâce et demandons au Seigneur d'augmenter notre foi et notre capacité de lui ouvrir nos trésors. Ces trésors ici qu'il donne, l'or, l'encens, la myrrhe, qui montrent qu'ils reconnaissent finalement la qualité du Seigneur, l'or pour le roi, l'encens, c'est la prière, comme on voit dans l'Apocalypse, la prière des saints qui monte comme un parfum, hein, comme l'encens, et bien parce que c'est à Dieu qu'il s'adresse, et la myrrhe pour cette humanité mortelle du Seigneur qui nous montre, que l'on retrouvera d'ailleurs dans l'Évangile, à la mort de Jésus, avec à cette mort de Jésus où on lui apportera du vin mêlé de myrrhe quand il est sur la croix, et quand il est au tombeau, eh bien Marie-Madeleine, Nicodème apporteront de la myrrhe. Et c'est ce qui est stupéfiant aussi dans ce passage. Ce qui est stupéfiant, c'est que déjà il y est présent, eh bien, l'ensemble du message de Jésus. Il est déjà présent la croix. Vous me direz bien sûr, à travers ce refus, car il y a aussi des hommes qui refusent, comme Hérode, eh bien, et ce massacre des innocents, cette peur pour son pouvoir, parce que c'est toujours comme pour les magiciens, je vous disais tout à l'heure, nous n'acceptons pas d'ouvrir nos coffrets, de nous mettre nos dons dans la grâce du Seigneur, et donc il y a ces résistances et cette persécution. Et ici pour Jésus, eh bien, c'est la même chose dans ce texte avec cette histoire de myrrhe, où c'est déjà une allusion à la croix de Jésus, comme le dit d'ailleurs le chant de Noël, il est né le divin enfant de la crèche jusqu'au crucifixion, mais aussi par cette expression qu'emploient, eh bien, les païens ici, où il est-il le roi des Juifs. C'est aussi l'écriteau qui est mis en haut de la croix. C'est de cette manière que Pilate le désigne. Hein, cette manière, eh bien, est présent tout ce message du Seigneur. Donc demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, notre capacité à l'accueillir, notre capacité aussi à être des évangélisateurs, d'avoir une foi rayonnante qui sait partager le trésor que le Seigneur nous a donné, qui sait ouvrir ses coffrets.